Valeurs et marchés financiers. Quand on évoque les marchés financiers et les crises qui leur sont propres, les notions de valeur comptable, de pouvoir d'achat et de richesse réelle se mélangent allègrement. En effet, nous mesurons ces trois notions en euros, ce qui n'aide pas à les différencier. Faisons donc le point. Faut-il interdire la spéculation? J'aimerais revenir sur la notion de spéculation. Peut-être vous demandez-vous pourquoi on ne l'interdit pas purement et simplement. La réponse est simple, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ce qui différencie investissement et spéculation, c'est le motif d'achat ou de vente. Tout achat ou vente qui n'est pas directement lié à l'expression d'un avis éduqué sur la valeur d'une entreprise ou la valeur d'un risque, est de la spéculation. En d'autres termes, si vous entrez dans une transaction impliquant une action sans émettre un véritable avis sur la valeur de l'entreprise, ce qui nécessite évidemment une analyse détaillée, alors vous spéculez. Peu importe que votre action soit achetée sur le marché primaire et donc qu'elle finance une entreprise ou non. Peu importe que vous ayez besoin de vendre votre action pour récupérer de la monnaie. Peu importe que vous soyez au courant que la Banque centrale pratique une politique de QE qui fait monter les prix. Peu importe que vous soyez persuadé qu'une fake news va faire varier les prix. Votre seule motivation doit toujours être l'évaluation de la valeur véritable de l'entreprise émettrice de l'action. La perspective de gain financier relative à vos décisions d'achat ou de vente doit toujours être placée en second plan. Comment voulez-vous contrôler que c'est bien le cas pour tous les acteurs des marchés financiers et de celui de l'immobilier? C'est impossible. Les gérants de fonds doivent acheter ou vendre quand on leur confie ou leur retire de l'épargne. Et personne n'arrivera jamais à empêcher qui que ce soit de parier sur les réactions des joueurs plutôt que sur la valeur véritable des choses. À propos des gains spéculatifs. Il y a un autre aspect de la spéculation sur lequel je souhaiterais revenir. Qu'est-ce qu'un gain réel par rapport à un gain spéculatif? Lorsqu'une action XYZ passe de 10 à 13 euros, il y a ceux qui ont acheté à 10 euros et vendu à 13 euros, ceux qui ont acheté à 10 euros et n'ont pas encore vendu. Dans les deux cas, le gain est de 3 euros par action. Les premiers ont effectivement 3 euros dans leur poche, enfin, sur leur compte, tandis que les seconds ont réalisé un bénéfice comptable. Dans laquelle de ces deux situations peut-on légitimement parler de gain réel? Vous êtes probablement tenté de répondre que seule la première situation correspond à de véritables gains, parce que les 3 euros sont présents sur des comptes bancaires. Je ne partage pas votre analyse. Le gain réel pose la question du prix. Peu importe si le produit financier est toujours en stock ou s'il a été vendu, la véritable question est pourquoi le prix a-t-il bondi 2-3 euros? S'agit-il d'une hausse dont les fondements sont économiques, cas où une nouvelle information aurait démontré que l'entreprise avait plus de potentiel que précédemment anticipé, ou plutôt financier? Cas, par exemple, où la banque centrale aurait injecté de la monnaie sur les marchés, ce qui aurait forcé les fonds à acheter des actions, provoquant ainsi la hausse. Un gain reposant sur une variation de prix, qu'il soit effectivement sécurisé sur un compte en banque ou encore soumis aux fluctuations à venir dans un bilan comptable, n'est théoriquement justifié que si la rationalité qui explique son existence est économique et non financière. De la valeur ajoutée des marchés financiers. Posez-vous la question, en quoi l'évaluation de la valeur d'une entreprise, ou d'un risque quelconque, correspond-elle à une richesse? Admettons l'espace d'un instant que tous les financiers adoptent une logique de rationalité économique. Tous décident d'acheter ou de vendre en fonction de ce qu'ils pensent réellement de la valeur des produits financiers qu'ils manipulent. Et si vous possédez un produit financier dont la valeur vient de passer de 10 à 13 euros? Cela justifie-t-il que vous touchiez 3 euros? Après tout, les revenus des uns et des autres sont supposés venir de la richesse effectivement produite, et pas de la richesse dont on anticipe la production. Autant un intérêt ou un dividende est payé à partir d'une activité réalisée par un agent économique créateur de richesse, autant une variation de prix, même si on considère qu'elle correspond à un sondage d'opinion d'acteurs adeptes de la rationalité économique, n'est rien de plus qu'une variation d'anticipation. Pourquoi la volatilité des opinions devrait-elle permettre de s'enrichir? À mon avis, elle ne le devrait pas. Cependant, l'argument souvent avancé est que cela n'a pas d'importance car les marchés financiers sont un grand jeu à somme nulle. Les bénéfices des uns viennent des déficits des autres. Celui qui accepte de payer 13 euros rémunère celui qui accepte de vendre. Or, cela est totalement faux, comme nous l'avons déjà montré dans la première partie sur les bénéfices comptables. Tout d'abord, celui qui achète à 13 euros a très bien pu obtenir son financement via un crédit bancaire, création monétaire, qui ne provient pas d'une véritable création de richesse. Et de toute manière, les marchés financiers ne sont pas un jeu à somme nulle. Encore une fois, si je vous achète une action XYZ à 13 euros, alors que son prix était précédemment de 10 euros, vous n'êtes pas le seul à gagner 3 euros. Puisque l'action XYZ vaut désormais 13 euros, tous les propriétaires d'actions XYZ enregistrent sur leur bilan comptable un gain de 3 euros par action. Par exemple, il existe aujourd'hui 2,5 milliards d'actions initialement émises par l'entreprise Total. Cela signifie qu'une hausse de 3 euros du prix de l'action Total, même s'il s'agit de l'échange d'une seule action, permet aux propriétaires de ces dernières d'enregistrer un bénéfice comptable cumulé de 7,5 milliards d'euros, égale 3 euros fois 2,5 milliards d'actions, toujours à votre service. Vous rendez-vous compte ? Votre gain monétaire de 3 euros provoque un gain comptable de 7,5 milliards. Nous ne sommes pas du tout dans un jeu à somme nulle. Tous ces milliards comptables seront utilisés comme justification pour facturer des frais aux épargnants qui ont confié leur monnaie au fonds d'investissement, ou pour emprunter auprès des banques, création monétaire, la monnaie nécessaire au versement des bonus des market makers et aux dividendes des actionnaires, propriétaires des fonds. De plus, parce que tous ces bénéfices comptables basés sur une simple variation de prix participent aux bénéfices des entreprises financières, ceux-ci sont enregistrés dans le PIB et faussent son calcul. S'il est certain que les fonds d'investissement et les banques d'investissement sont des entreprises qui rendent différents services, les bénéfices qu'elles enregistrent à partir de la variation de valeur de leur stock n'ont rien à voir avec ces derniers. Quel est le lien entre l'échange d'une action XYZ à 13 euros et la valeur des services rendus par des banques ou des fonds? Il n'y en a tout simplement aucun. C'est tout notre système de comptabilité qui est à revoir. La valeur détruite par les crises financières. Pour terminer, je souhaiterais répondre à la question suivante. Qui perd quoi en cas de crise financière? De la monnaie est-elle détruite en cas de krach boursier? Non, la quantité de monnaie scripturale en circulation, celle qui est inscrite sur nos comptes en banque, ne varie pas quand les prix sur les marchés financiers s'effondrent ou s'envolent. Les prix n'impactent que les valorisations comptables, donc les bénéfices et les déficits comptables. Personne ne perd la monnaie inscrite sur son compte en banque en cas de crise financière, sauf si une banque de dépôt fait faillite. C'est uniquement la valeur des possessions des uns et des autres qui se réduit. Or, parce que nous définissons la richesse financière comme la somme de ce que nous possédons, les crises financières donnent à tous ceux qui possèdent des produits financiers, particuliers, entreprises et États, l'impression d'être plus pauvres. C'est cette impression qui mène aux contraintes budgétaires et au serrage de ceinture qui provoque la crise de l'économie réelle, la crise de la demande. Ce point est essentiel à la compréhension des mécaniques financières. Si les dépenses des uns sont bien les revenus des autres, chaque dépense sur les marchés financiers entraîne une variation de prix, à la hausse ou à la baisse, qui provoque des bénéfices ou des déficits comptables pour tous les agents qui possèdent le produit qui vient d'être échangé. Ainsi, si les marchés financiers sont bien un jeu à somme nulle en termes de trésorerie, les euros nouvellement inscrits sur les comptes des uns viennent des comptes des autres, ils ne sont pas du tout à somme nulle d'un point de vue comptable. Les bilans de tous enregistrent des gains ou des pertes simultanément pour chaque transaction effectuée. Ainsi, les gains financiers liés à une variation de prix, qu'ils soient immobiliers ou issus des marchés financiers, sont-ils une pure fiction ? Que ceci soit monétaire, de la monnaie sur un compte en banque, ou comptable, une variation de valeur dans un bilan, ils ne correspondent pas à une création de richesse, quand bien même la rationalité des financiers serait économique au lieu d'être financière, ce qui est de toute manière impossible, cela ne sauverait toujours pas le raisonnement. Cela dit, comme les gains financiers liés aux variations de prix sont en partie enregistrés dans le PIB, ils donnent l'impression de la croissance. De plus, ils permettent l'augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui en profitent, salaires, bonus et dividendes, sans que cela corresponde à de véritables services rendus. Enfin, alors qu'aucune monnaie n'est détruite quand les prix baissent et que les bénéfices comptables de la veille se transforment en pertes comptables, cette mécanique de prix parvient tout de même à provoquer de véritables crises économiques ressenties par tous dans le monde entier.